Secret d'État, chapitre 11. Il faisait grand jour depuis longtemps quand mon domestique suisse entra dans ma chambre et me dit en toute hâte que le premier ministre m'attendait au bureau. J'étais rentré au palais à 4 heures passées. Je me levai précipitamment, très ému d'être en faute. Je me débarbouillai aussi vite que je pus, pendant que le suisse emportait mon costume de gala pour le brosser. Cet homme usait les vêtements en les brossant. Ce n'était pas par zèle, c'était par distraction. Il rêvait à ses collections de timbres et continuait à frotter avec ardeur. Rien ne lasse, au contraire, la patience comme de penser à ce qu'on fait. Le baron de Herner m'attendait dans son cabinet. « Eh bien, me dit-il, sans mauvaise humeur, mais d'un air toujours préoccupé. « Je pense que l'on s'est couché tard cette nuit. Cela vous amuse à ce point, les réceptions officielles? Moi, je ne peux pas m'y voir. Il est vrai qu'en ce moment, je ne suis guère disposée à m'amuser. Nous aurons beaucoup à faire aujourd'hui. Les socialistes du royaume ont reçu une adresse des socialistes français et des socialistes allemands. Il faut que nous écrivions à nos ambassadeurs. » Nous avons aussi à écrire au gouvernement français pour une autre affaire de moindre importance, un petit traité de commerce relatif à certains trafics entre des possessions que nous avons en Afrique et des colonies françaises avoisinantes. Notre ambassadeur à Paris doit rédiger le document, mais je tiens à lui faire parvenir un projet tout préparé. Je ne suis pas fâché de montrer à notre représentant qu'il y a une direction à Schönbourg et qu'il n'est pas seul à mener nos affaires en France. Comme il a des tendances, ce digne prince, à se l'imaginer quelquefois. Vraiment, je ne suis pas un homme de parti. J'ai toujours une telle fidélité pour les gens avec qui je me trouve que je me sens devenir infidèle à ceux que je viens de quitter. Étais-je assez loin du premier ministre pendant cette soirée de la veille? Et maintenant que je me trouvais avec lui, maintenant qu'il me parlait si librement, et vraiment avec tout l'abandon dont il était capable, il me semblait de nouveau que c'était une trahison que de servir mes amis en contrecarrant ses volontés. C'est avec un cruel ennui que je pensais que, tout à l'heure, il faudrait parler au roi du divorce de Bertha. En somme, je suis de ces gens dont le vulgaire dit, avec mépris, qu'ils sont toujours de l'avis des personnes avec qui ils sont. Eh bien, puisque je suis de ces gens-là, je suis qualifié pour prendre leur défense. Nous ne sommes peut-être pas imméprisables. Nous souffrons d'être dans la nécessité de faire de la peine à autrui, non pas à un autrui vague, mais à un autrui que nous avons approché. Et vraiment, cette impuissance à nuire à son prochain, qualifiée de faiblesse honteuse par ceux qui s'en trouvent lésés, n'est pas un sentiment si répréhensible. Et quand deux parties sont en différent, nous avons des tendances à croire qu'il n'est pas forcé que l'une d'elles ait nécessairement tort et l'autre nécessairement raison. « J'ai encore d'autres préoccupations très graves, » dit le baron de Herner. « Je vous dirai cela en chemin, car il commence à se faire tard. » Il me fit prendre quelques papiers et nous descendîmes à la hâte. Le landau officiel nous attendait dans la cour. Le baron de Herner pensait tout haut devant moi. C'étaient des propos coupés de silence. Il suivait son idée obscurément. Puis, quand elle était élucidée, il la formulait à haute voix. « J'ai reçu des nouvelles inquiétantes. » me dit-il au bout d'un instant. Des nouvelles incomplètes, naturellement, comme celles que sont capables de me donner les braves gens qui font partie de ma police. Il haussa les épaules, puis ajouta. Nous avons toujours eu peur d'employer de véritables crapules à ce service-là. Alors, nous n'avons à notre disposition pour cette besogne louche que des serviteurs loyaux, mais imbéciles. « C'est bien scabreux, lui dis-je, d'employer des coquins. Pourquoi »« Pourquoi ? Dit-il. « Moi, je supporte très bien d'avoir affaire à des coquins intelligents. »« Mais c'est une méfiance continuelle. »« Eh bien, on se méfie, voilà tout. Il ne faut pas avoir peur de se méfier. »« Je sais bien que les hommes d'État sont souvent lâches et paresseux. C'est par paresse qu'ils veulent avoir à leur service des gens sur qui ils peuvent se reposer, comme ils disent. Eh bien, on ne doit pas se reposer. On doit se ménager, tout au plus. On doit faire faire par d'autres le travail qu'on n'est pas absolument obligé d'exécuter soi-même. Aussi, on a plus de temps à soi. Mais il faut garder pour soi le plus de responsabilités possible. Et il ne faut pas craindre d'être sur le qui-vive. C'est, au contraire, une position qui me plaît, dit-il avec un grand air de satisfaction. Quand je serai le maître un peu plus que je ne le suis, quand je serai débarrassé des gens qui sont autour du roi, qui nuisent à mon crédit et diminuent ma puissance, je crois que je saurai m'entourer d'aides utiles et d'aller dénicher n'importe où elle se trouve la vraie capacité. Et les canailles que j'emploierai ne me trahiront pas, je vous en réponds. Les gens n'ont pas le droit de se plaindre d'être trahis. Ils n'ont qu'à faire attention. Le premier ministre resta ensuite quelques instants sans rien dire, mais il paraissait surexcité. « Ah, je ferais de belles choses si je continue à être le maître. »« Mais il ne faut pas, » dit-il en s'assombrissant, « qu'il arrive malheur au roi. C'est mon seul soutien. Nous avons parfois des dissentiments, mais il sait, lui, ce que je vaux. Si le roi disparaissait, j'ai peur d'y penser. » Ce serait un malheur pour moi et pour toute la politique que je représente. » Le premier ministre revenait si souvent sur cette disparition de roi que je finis par lui demander si la santé de Charles XVI donnait des inquiétudes. « Sa santé ? Non, » me répondit-il. « Dans cette famille de Tornhausen, dont il est, ils sont forts comme des bêtes de somme. » C'est là que d'autres familles régnantes débilitées viennent chercher des princesses qui soient des mères un peu solides et qui revivifient les souches appauvries. Non, ce qui m'inquiète pour le roi, ce n'est pas sa santé. C'est son insouciance, la liberté imprudente de sa vie, son habitude de s'en aller à droite, à gauche, sans vouloir être gardé. J'ai peur de toutes ces affaires sentimentales dont il fait la confidence à son ami Ehrenstein. Il lui faut un confident, et c'est ce maudit Ehrenstein. Je ne dis pas cela par jalousie, car je ne le crains pas. Mais s'il ne s'était pas trouvé là, c'est peut-être à moi que le roi aurait raconté toutes ses aventures, et je pourrais veiller au grain. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a encore du nouveau. Mes policiers me l'ont appris. Ou plutôt, fait deviner, car ces idiots sont capables de me fournir tout au plus de vagues indices. Je crois que le roi a une autre histoire en tête. On a vu sa voiture fermée ces jours-ci se diriger du côté du château de Reining, où habite la jeune sœur de son ami. Oh, il est tellement compliqué. C'est qu'il pourrait être maintenant amoureux de celle-là. Il en est bien capable. C'est la seule femme qu'il voyait en dehors de sa maîtresse. C'était la seule qu'elle lui laissait voir, et c'était probablement encore une de trop. Le danger, car moi le reste, ça m'est égal, il peut bien faire ce qui lui plaît. Le danger, c'est que dans ses allées et venues, il est toujours seul, ou à peu près. Il ne veut pas de la surveillance de notre police. Mais il a derrière lui une autre surveillance qui ne lui fait pas défaut. C'est celle des anarchistes réfugiés. Tout ce que mes limiers ont pu me dire, c'est qu'ils ont vu deux ou trois fois des promeneurs un peu suspects sur la route que devait suivre le roi. Ces anarchistes russes qui s'attachent à la piste du roi sont malheureusement d'autres gaillards que mes gens de la police. Ce sont des étudiants très instruits, pour la plupart assez fins, et surtout des hommes qui ne craignent rien. S'ils prennent des précautions, ce n'est pas pour garer leur vie, c'est pour préserver ce qu'ils appellent leur œuvre. Ils sont dangereux. Nous ne sommes pas suffisamment armés contre ces gens-là. La voiture était maintenant à l'entrée de la très longue allée herbue qui menait à l'entrée du château royal. « Chaque fois que je rentre dans cette allée, » me dit le ministre, « je me demande ce qui va m'arriver quand je serai au bout. » Ce que je vais apprendre. Mais n'avez-vous aucune crainte pour vous? Car en somme, le même accident qui peut atteindre le roi menace également le premier ministre. Si j'avais eu affaire à une âme inquiète, je n'aurais sans doute jamais posé cette question. Mais, sans en savoir exactement les termes, j'étais sûre d'avance de la réponse qui me serait faite. Et peut-être y eut-il de ma part un peu de courtisanerie instinctive à fournir au premier ministre l'occasion de prononcer de belles paroles courageuses. « Si c'est moi qui reçois la bombe, » me dit-il en souriant, « ce sera tout de suite fini, et je ne serai pas là pour voir ce qui se passera après. Et puis, le roi sera toujours là. Je ne veux pas faire de fausse modestie et dire qu'il me remplacera facilement. Je ne le crois pas. Mais c'est un homme de grande valeur, et s'il n'a personne pour le seconder, eh bien, il gouvernera tout seul. Et même, » ajouta le baron de Herner en souriant, « ce ne sera pas peut-être un monarque aussi tolérant qu'on pourrait le croire. Il sait très bien que tant que je serai là, il ne risque rien à être tolérant, et que mon autoritarisme corrigera son indulgence excessive. » Mais une fois qu'il sera seul, il ne se laissera plus aller à être aussi facilement débonnaire. « Non, » répéta Herner, « pour beaucoup de raisons, il vaut mieux que ce soit moi qui m'en aille si l'un de nous deux doit disparaître. » « D'abord, » ajouta-t-il avec cette expression de méchanceté soudaine, cette sauvagerie originelle qui faisait parfois irruption en lui. « L'idée que cette... » Il eut la force de retenir le mot violent qui venait à ses lèvres. « Que cette princesse Elsa peut venir au pouvoir avec sa tourbe de bavarois, l'idée que tout ce que j'ai fait sera défait en un instant par une bêtise du sort, que je n'aurais pas fait voter ma loi de justice qui réglera une fois pour toutes la jurisprudence de nos procès politiques et ne nous exposera plus à laisser juger des manifestants par des jurés stupides ou poltrons, l'idée que ces gens qui n'étaient rien seront les maîtres et mes maîtres, je crois que je serai capable de me faire anarchiste à mon tour. » Il ne plaisantait pas. Il avait pris sa canne dans sa main crispée et tapait avec violence le fond de la voiture. Il se calma un peu l'instant d'après. « Vous voyez, » me dit-il avec un sourire un peu forcé, « ce que c'est que la passion du pouvoir. J'en suis possédé. Et je trouve, en dépit des philosophes, que je ne suis ni bas ni ridicule. Il faut connaître ces choses-là pour s'en rendre compte. On n'en jouit pas, mais on y tient. On y tient d'autant plus violemment qu'on n'en jouit pas, et que l'on sait bien qu'une fois parti du pouvoir, on n'en gardera aucun bon souvenir. Quand on est au pouvoir, on méprise la considération des gens. Mais aussitôt qu'on est déchu et qu'elle vous fait défaut, on souffre de ne plus sentir autour de soi cette estime, cette déférence, cette crainte. » Nous étions arrivés dans la cour et le ministre avait jeté un regard inquiet autour de nous. Il ne semblait pas que le roi fût au château. Au bout d'un instant, la porte du perron s'ouvrit et nous vîmes s'avancer jusqu'à nous le valet de chambre du roi, celui qui était spécialement attaché à sa personne et le suivait dans tous ses déplacements. C'était un petit bonhomme qui n'avait ni la solennité ni le style d'un domestique d'apparat. Avec ses cheveux courts, mal plantés, sa petite moustache et de rares poils de barbe sur les joues, il ressemblait plutôt, dans son veston noir, à un cireur de bottes endimanché. Il vint dire au baron de Herner, d'un grand air de discrétion, que Sa Majesté n'était pas rentrée depuis la veille. Le fait en lui-même n'avait rien d'inquiétant, mais ce qu'il ajouta parut alarmer le ministre, déjà si disposé à l'inquiétude. Le roi, même dans ses fugues, gardait généralement quelques précautions d'homme rangé, et quand il s'absentait ainsi, prévenait son domestique qu'il rentrerait ou ne rentrerait pas. Mais cette fois, il n'avait rien dit en partant, et quand il ne disait rien, c'était qu'il avait l'intention de rentrer. Il y avait donc de quoi s'inquiéter. Le petit valet de chambre ajouta cependant ce détail qui calma un peu l'anxiété du ministre, c'est que le roi il s'en souvenait maintenant, était parti en voiture après l'avoir envoyé en course à la ville. Il était donc possible que Sa Majesté eût décidé qu'elle passerait la nuit dehors, changeant ainsi d'avis pendant le temps qui s'était écoulé entre le départ du domestique et son propre départ du château. Cette hypothèse ne tranquillisa pas le baron. « Il y a là quelque chose de pas naturel, » me dit-il quand le domestique se fut éloigné. « Il a dû se passer un événement anormal. Comment expliquez-vous que le roi ne m'ait rien fait dire à moi ? Nous avions aujourd'hui des décisions très graves à prendre ensemble. » « Un verre, » me dit-il d'un ton énervé. « Il ne s'agit pas de chercher à me rassurer. Demandez-vous avec moi, sans avoir peur d'envisager les éventualités les plus graves, quelles sont les possibilités ? Mon avis est que nous ne perdions pas notre temps à rester là. Il est certainement allé au château de Reining ou au château de Cressac, où habite sa maîtresse. C'est sur la même route. Il faut aller le chercher là. » Je fis cette timide objection que l'on risquait de mécontenter le roi en allant ainsi à sa recherche. Mais le baron ne s'y arrêta pas. Il ne craignait jamais de mécontenter les gens. C'était sa force. Il préférait agir d'abord, quitte à s'excuser après. Mais il ne voulait pas être entravé dans ses actions par des craintes de ce genre, qui pouvaient d'ailleurs être chimériques. « Ce n'est pas pour mon plaisir ou pour satisfaire une vaine curiosité que je vais à sa recherche. Le roi le sait bien. » Il appela le cocher qui nous avait amenés et qui attendait des ordres pour savoir s'il devait dételer ou retourner à la ville. Puis il changea d'avis et fit atteler le petit tonneau. Je compris qu'il aimait mieux ne pas emmener de domestique avec nous. Chapitre 12. Nous partîmes donc, tous les deux, dans la campagne, par une route encaissée et sombre qui devait plaire au roi. Car, avec plus de naturel, elle était un peu dans le goût de son jardin sauvage. Parfois, les deux talus de verdure qui bordaient ce chemin comme deux murailles s'abaissaient tout à coup et nous traversions une carrière abandonnée. « Quand je pense, » disait le ministre, « qu'il passe sa vie à s'en aller tout seul dans ces chemins et qu'on peut si facilement l'attendre dans une de ces carrières. » « Mais hier, il n'est pas sorti seul. » « C'est ce qui me rassure un peu. Je suis assez tranquille sur le compte du cocher. C'est un serviteur loyal, comme tous nos gens. Pourtant, quand j'y réfléchis, cette circonstance, qu'il n'était pas seul dans sa voiture, m'inquiète maintenant au lieu de me rassurer. Je suis très étonnée qu'il n'ait pas envoyé son cocher au château pour me prévenir, puisqu'il l'avait sous la main. » Le baron était décidément très énervé. Il avait poussé un peu trop le double poney qui nous emmenait, si bien que l'animal, à une montée, donna des signes de fatigue. Il était plus sage de nous arrêter quelques instants à une auberge qui se trouvait à mi-côte. Pendant que le cheval soufflait un peu, le baron nous fit servir du fromage et du pain. J'en mangeais avec un bonheur véritable. J'étais parti le matin sans prendre le café au lait qui était si bien servi au palais où l'on avait de bonnes habitudes allemandes. Il y avait longtemps que midi avait sonné, et en présence des graves occupations qui agitaient le gouvernement du Bergensland, je n'avais pas osé parler de déjeuner. Le premier ministre, plus absorbé, fit moins honneur à ce frugal repas. Il parlait à une vieille paysanne qui tenait l'auberge. Je ne connaissais pas encore suffisamment la langue du pays pour comprendre tous les termes de la conversation. Mais je devinais, d'après les gestes du baron de Herner, qui lui montrait alternativement les deux directions de la route, qu'il lui demandait si elle n'avait pas vu passer la voiture du roi. Cet interrogatoire ne paraissait donner aucun résultat. L'air paisible et la tête oscillante, elle se tenait sans rien dire devant le baron, qui, de guerre lasse, s'était mis à manger, visiblement aussi préoccupé qu'auparavant. Puis soudain, la vieille femme, toujours avec son air paisible, se mit à dire quelque chose que je ne compris pas. Mais je vis le baron de Herner lever brusquement la tête, son visage pâlir, les yeux largement ouverts. Je le vis interroger la paysanne avec véhémence, puis il me dit « Venez !» Je lui demandai avec une curiosité ardente et sans y mettre de forme « Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?» Il paraissait ne pas m'entendre et je n'osais pas répéter ma question. Il poussait maintenant à grands coups de fouet le petit cheval qui montait au galop la côte. « Ce qu'elle m'a dit, vous voulez le savoir ?» Elle m'a dit simplement, sans se douter de l'effet qu'elle allait me faire, « Qu'est-ce que c'était donc que ce bruit qu'on a entendu hier soir par là-haut ? Ça a tonné comme un gros coup de canon. On aurait dit que les rochers allaient crouler, et j'en suis restée sourde pendant un grand quart d'heure. » Voilà ce qu'elle m'a dit. Je hasardai cette hypothèse qu'il s'agissait peut-être de travaux de mine, de rochers qu'on faisait sauter dans les carrières. Mais le baron me répondit d'une voix altérée que les carrières étaient abandonnées depuis longtemps dans toute la région. C'est de ce côté qu'elle a entendu le bruit. Hier soir, à 9 heures, à l'heure où la voiture, dit-il en baissant la voix, devait passer par ici pour rentrer au palais. Depuis que les carrières n'étaient plus exploitées, cette route était absolument déserte. Elle conduisait de Schönburg au village de Simstadt, une petite ville ancienne dont le commerce était tombé. Et les rares transactions qui se faisaient entre cette localité et la capitale utilisaient plutôt une autre route, plus commode et plus courte, qui suivait le cours du canal. Nous étions arrivés au haut de la côte. Et la route continuait pendant un demi-kilomètre jusqu'à un nouveau tournant. Le baron me le désigna de l'extrémité de son fouet qui tremblait au bout de son bras. Il y a là une autre carrière. Et il cessa de fouetter le cheval. On eût dit qu'il craignait d'arriver trop vite à cet endroit. Le coude était très brusque. Comme nous allions tourner une arête de rocher, le poney stoppa et fit un écart. Je sautai à terre et j'allais le prendre à la bride. Mais en passant devant la voiture, j'aperçus toute l'étendue de la carrière, et je vis qu'elle était pleine de corbeaux qui couvraient le sol comme un tapis funéraire. Des corbeaux ? À son tour, le ministre sauta en bas de la voiture. Attachez le cheval. J'attachai le cheval à un arbuste qui avait poussé sur le talus entre deux rochers. Le ministre, le fouet à la main, s'avançait vers les corbeaux, qui formait un tas plus serré au milieu de la route. Il brandit son fouet. Des oiseaux s'envolèrent, et pendant un instant, l'air s'obscurcit de leurs ailes, comme si le crépuscule était venu tout à coup. Puis nous vîmes, épars sur le sol, une roue de voiture, presque intacte, la tête et l'avant-main d'un cheval, à l'état de squelette, des morceaux de bois peints en bleu, à la couleur des carrosses royaux. Le baron de Herner allait et venait au milieu de la route, regardait et inventoriait tous ces débris avec un calme effrayant. En dehors du chemin, sur le sol de la carrière, nous aperçûmes d'autres débris encore plus impressionnants. C'était cette fois des morceaux de squelettes humains. L'explosion avait dû être terrible. Elle avait emporté très loin le corps des deux hommes, et il ne restait plus des chevaux qu'une moitié de carcasse, complètement dénudée. Il était facile de retrouver, entre les deux squelettes humains, quel était celui du roi. Le cocher Hoffmann, avec qui il était parti la veille, était de petite taille, et bien qu'il eût la moitié des jambes emportées, nous pûmes voir facilement, en comparant la longueur des épines dorsales, que cet autre assemblage d'os qui se trouvait plus près de la route, presque sur le bord, était tout ce qui restait du roi. Il n'avait pas été, semblait-il, atteint par un projectile, mais la commotion l'avait tué. Il était tombé couché sur le côté. Un des bras déchiquetés avait une position anormale et contournée. Il est probable que dans leur besogne immonde, les corbeaux avaient changé la position des membres. Nous revenions en silence auprès de notre voiture quand le baron aperçut autre chose. Il quitta la route et se dirigea vers un renfoncement de la carrière. Arrivé là, il me fit signe de la main. Il était arrêté devant un troisième corps, plus affreux à voir que les autres, parce que les corbeaux ne l'avaient pas encore achevé. Les os de la tête étaient déjà dénudés, le corps était encore couvert de ses vêtements, et nous vîmes qu'il était vêtu à la russe, avec des bottes et des culottes bouffantes. La plupart des réfugiés étaient habillés de la sorte. Ils arrivaient d'ordinaire, même les étudiants, avec des costumes de moujik, et trouvaient ainsi moyen, faute d'autres ressources, de se faire embaucher pour les travaux des champs. Nous étions certainement en présence de l'homme qui avait lancé la bombe. Il avait dû être blessé mortellement par quelque projectile. Il était mort plus tard que les autres. C'est ce qui expliquait que les corbeaux ne se fussent approchés de lui que quelques heures après. Il ne nous restait plus qu'à reprendre le chemin de la ville, à prévenir les magistrats et à faire faire les constatations officielles. J'allais détacher le cheval, et le baron et moi nous reprîmes place dans la voiture. Le ministre ne disait rien. Il avait posé le fouet dans le porte-fouet et laissé le petit cheval aller à sa guise. Nous descendîmes la côte et nous repassâmes devant la petite auberge. Le baron de Herner paraissait de plus en plus absorbé. Deux ou trois fois, la voiture s'arrêta. À ce moment, il avait un sursaut, comme un cocher qui s'éveille, et remettait le cheval en mouvement en secouant nerveusement les rênes. Tout à coup, il arrêta le poney de son plein gré, se tourna de mon côté et se mit à me regarder dans les yeux. Puis il me dit « Descendons ». Il attacha lui-même le cheval à une branche d'arbre. Ensuite, il me prit le bras et me fit marcher à ses côtés. Il était dans un état de surexcitation extraordinaire. Il avait les larmes aux yeux et ne pouvait parler. Nous marchâmes quelques instants en silence. Il me serrait fébrilement le bras. Puis il se mit à me regarder comme l'instant d'avant, à me regarder profondément. « Humbert, me dit-il, les dents serrées, Humbert, je ne veux pas quitter le pouvoir. Je ne veux pas m'en aller bêtement et stupidement parce que le sort me force à m'en aller. Je ne veux pas céder la place à ces gens. Je veux rester le maître. Vous m'entendez ?» Il me prit le bras et nous marchâmes de nouveau en silence. « Il n'y a que nous qui ayons vu ce que nous avons vu. Il n'y a encore que nous qui sachions ce que nous savons. Tout le monde ignore que la succession du royaume est ouverte. Quand on la proclamera ouverte, c'est parce que nous l'aurons dit. « Il est déjà arrivé, continua-t-il, que le roi s'absente pendant plusieurs semaines pour une destination mystérieuse. » Dans ces cas-là, il ne prévenait que moi. Et c'était moi qui disais simplement au ministre « Sa Majesté est partie pour quelque temps. » Et je n'avais d'autre compte à rendre à personne. Nous sommes les seuls témoins de la disparition du roi. Il n'y avait là que l'assassin et il ne parlera plus. J'ai tout lieu de croire qu'il n'y a pas eu de complot. Les crimes anarchistes ont souvent ceci d'effrayant que, comme un crime de droit commun, ils sont conçus et exécutés par un seul être qui ne s'en ouvre à personne. Et l'assassin anarchiste est d'autant plus difficile à retrouver que nul lien connu, comme dans les crimes passionnels, ne le rattache à la victime, et qu'il n'est pas dénoncé, comme le voleur, par le produit d'un vol dont il sèmerait des traces derrière lui. En admettant que cette fois le criminel ait des complices, et ils croiront que le coup est manqué. Nous allons remonter là-haut pour plus de sûreté, dit le baron. Je commençais à deviner ce qu'il avait l'intention de faire. Nous revînmes à la terrible carrière, d'où nous ne nous étions pas trop éloignés. Il poussait de nouveau fortement le malheureux petit cheval, pour qui c'était décidément une rude journée. Il fallait maintenant ne pas perdre de temps. Il ne passait d'ordinaire personne sur la route, mais il pouvait passer quelqu'un ce jour-là. Et justement, comme nous arrivions à la carrière, nous vîmes un cheminot en arrêt auprès de la voiture royale. Le baron me fit signe de ne pas descendre du petit tonneau. Il mit simplement son cheval au pas, l'arrêta en arrivant près du cheminot et regarda d'un air indifférent tous ses os et ses morceaux de bois. Le cheminot lui dit quelques mots que je ne compris pas, mais dont je pus, grâce à des gestes de l'homme, reconstituer le sens. Il agita les deux poings avec la prétention visible d'imiter le galop d'un cheval. Puis il tourna les mains l'une autour de l'autre pour donner l'impression d'une chute finale. Il fit une sorte de moue philosophique et prit sans transition un ton beaucoup plus apitoyé pour parler de ses affaires personnelles et de ses embarras financiers que le baron soulagea avec empressement par l'offre d'une large pièce blanche. Puis nous feignîmes de continuer notre route, au pas, comme des gens qui font souffler leur cheval. Ce damné cheminot ne s'en allait pas. Il marchait avec une lenteur. Enfin, nous le vîmes tourner le coin de la route. Notre tâche, assez pénible, allait commencer. Chapitre 13. Nous prîmes d'abord les débris de bois et nous les portâmes dans un recoin de la carrière, derrière un tas de pierres qui les dérobaient à la vue des passants. Nous roulâmes jusqu'à cet endroit la seule roue qui resta du carrosse royal. Puis il fallut emporter les ossements. Il fallut abandonner dans ce coin de carrière ce qui restait du malheureux roi. Nous n'avions aucun outil et la terre était trop dure pour que nous puissions donner à ces misérables restes une sépulture même improvisée. Mais le baron de Herner n'était pas sentimental. Il avait aimé le roi. Ce fut cependant sans émotion apparente qu'il mania avec moi ses ossements. D'ailleurs, moi-même qui avais approché le roi et qui avais été tellement séduit par lui, j'exécutais ce travail macabre sans autre émotion que celle d'un dégoût physique, car il restait encore, après ses os, quelques rognures de chair que les corbeaux avaient laissées. Le baron était désormais d'une tranquillité parfaite. Cette tranquillité me surprenait. Il ne suffisait pas d'avoir pris l'audacieuse résolution qu'il avait adoptée. Il me semblait que ce plan téméraire était difficile à exécuter. Ce mensonge pouvait durer 2 mois, 6 mois, mais il arriverait bien un moment où l'on s'étonnerait de cette absence prolongée. Il voulait d'abord rester au pouvoir suffisamment de temps pour consolider son œuvre. Après, il s'occuperait de la suite. Je crois qu'il pensait qu'il serait toujours temps de faire mourir le roi officiellement. Un souverain, comme jadis Louis II de Bavière, pouvait trouver la mort dans une partie de bateau. Mais d'ici là, le baron de Herner, seul maître du pouvoir, aurait dicté au Parlement les lois nécessaires, les lois de justice, les organisations militaires nouvelles. Il pourrait même modifier la constitution du Bergensland en ce qui concernait les familles régnantes, prévoir l'éventualité d'une régence et l'interdire par avance aux princesses de familles étrangères, de façon à écarter définitivement du pouvoir cette princesse bavaroise et la séquelle ennemie qui l'entourait. Le baron était tout entier à cette confiance exagérée que l'on éprouve quand on a échappé par son propre effort à un danger qui vous avait fortement effrayé. Il n'était pas loin de se croire invincible et invulnérable. Nous étions remontés en voiture. Il fouettait le cheval et le stimulait de la voix avec bonne humeur. Et vraiment, les gens qui nous auraient rencontrés n'auraient pas pu, en nous voyant, soupçonner ce que nous venions de faire. Nous avions l'air de 2 bons amis en promenade d'agrément. Comme nous passions devant l'auberge, le baron se sentit pris d'une belle fringale. Il mit pied à terre et se fit servir tout ce qu'on put trouver dans la cuisine, du saucisson et une omelette au lard. Chapitre 14. Par bonheur, le cocher Hoffmann, célibataire, ne laissait pas après lui une famille que sa disparition pût inquiéter. On prévint tout de suite les gens du château que Sa Majesté serait absente pour un long mois. Le ministre laissa entendre à ses collègues du cabinet qu'il connaissait la retraite du roi, que Sa Majesté lui avait à lui seul révélée. Il voulait se réserver, au cas où surgirait une difficulté inopinée, la faculté de pouvoir aller, soi-disant, trouver le roi dans cette retraite mystérieuse et de rapporter sa décision. Il avait pour les cas graves quelques blancs-seins du roi dont il pouvait faire usage. Je crois d'ailleurs qu'au point où il en était arrivé, la perspective de commettre un faux ne l'eût pas effrayé. Dès le soir même, il me fit venir chez lui et travailla avec moi à cette loi de procédure qu'il était très pressé de faire voter par le Parlement. C'était une simple question de travail matériel et de formalité, car les représentants du peuple, pour une forte majorité, étaient entièrement au service de Herner. Nous travaillâmes jusqu'à une heure assez avancée. Ma nuit précédente et ma journée avaient été très dures, mais je ne sentais aucune fatigue. J'étais trop surexcité pour dormir. Ce travail que nous fîmes ensemble nous calma tous les deux. Ce fut lui le premier qui se sentit là. Il me dit d'aller me coucher. Au moment de nous quitter, il me serra la main comme à son ordinaire. Puis il parut se souvenir des événements de la journée et il me donna sur l'épaule une tape plus amicale, mais qui n'était pas spontanée, et je sentis que cette forte association qu'avait créée entre nous cette grave journée n'était peut-être pas une union véritable. Nous ne nous quittions pas comme des amis, mais comme des complices. Le lendemain, je reçus la visite de Tolberg, qui voulait savoir si j'avais parlé au roi. Je lui dis, sans trop de gêne, que le roi était parti pour un temps indéterminé. Ce qui me rendait ce mensonge assez facile, c'est que j'y étais absolument obligé. « Alors je n'ai plus aucun espoir, » dit Tolberg d'un air de détresse. « La demande de divorce doit passer d'ici très peu de temps au tribunal suprême. Si elle n'y arrive pas avec un avis favorable du roi, elle sera rejetée. Le ministre leur fera connaître l'avis du gouvernement, et si même, par esprit de justice, il passait outre et l'acceptait, Herner ferait agir le prêtre. Il n'y a plus aucun espoir d'arriver à notre but en suivant les formes régulières. Perdu pour perdu, j'essaierai d'autres moyens. Vous savez que tout un parti s'est formé contre le Premier ministre. Ce parti s'était flatté d'agir sur l'esprit du roi et de ruiner la faveur de Herner. Mais notre souverain ne gouverne plus. Vous voyez qu'il choisit le moment où la situation est très critique à l'intérieur pour disparaître tout à coup. Puisque nous ne pouvons plus compter sur lui pour défendre le droit, nous compterons désormais sur nous-mêmes. » Je ne demandais qu'à ne pas recevoir les confidences de Tolberg. Ma situation était déjà compliquée. Mais les gens avaient décidément en moi une confiance intarissable. « On conspire sérieusement contre Herner, » me dit Tolberg en baissant la voix. « Nous avons déjà avec nous plusieurs officiers de la garnison de Schönberg. Le départ du roi peut très bien activer les choses. Il nous permettra de dissiper les hésitations de quelques personnes d'importance qui voulaient bien marcher contre le Premier ministre et qui n'auraient jamais pris les armes contre le roi. Car vous ne vous y trompez pas, Humbert. L'absence du roi dans les circonstances présentes produira certainement un très mauvais effet. » Je ne pouvais pas arrêter Tolberg dans ses indiscrétions et lui dire que le fait de savoir tout ce dont il m'instruisait allait rendre assez fausse ma situation auprès du Premier ministre. Je ne devais ni ne pouvais révéler les liens d'intimité forcés qui existaient entre Herner et moi. Je laissai donc parler le jeune diplomate en me disant que je me souviendrais le moins possible de tout ce qu'il me racontait là. « Nous aurons avec nous la princesse Elsa, » continua Tolberg. « Elle est assez populaire à Schönberg. Le prince Henri, son défunt mari, le frère du roi, était très aimé du peuple, et l'on sait qu'elle a très bien élevé ses deux enfants. Mais j'allais oublier de vous dire pourquoi surtout j'étais venue ce matin. Bertha est de nouveau installée chez elle. Elle veut que, toute affaire cessante, vous veniez dîner ce soir avec nous. » Je pensais que je les étonnerais beaucoup en refusant, et je promis à Tolberg de venir, tout en me disant à part moi que j'enverrais un contre-ordre. Je considérais toujours que mon intimité avec ce couple était une sorte de trahison à l'égard de Herner. N'avais-je pas encore moins le droit de le trahir depuis qu'il m'avait associé à son terrible secret? Agacé de ces complications, j'eus presque envie d'envoyer tout le monde promener et de retourner à Paris. ce n'était pas des velléités bien sérieuses. Non seulement je n'en fis rien, mais je n'envoyai même pas de contre-ordre à Bertha, et je me rendis tout de même chez elle, au mépris de toute autre considération, simplement parce que je m'ennuyais et que c'était un plaisir pour moi de dîner en compagnie de mon amie et de cette jolie femme. J'avais revu le baron de Herner dans la matinée. Il paraissait fatigué cette fois. L'après-midi, il ne vint pas au palais. Il avait fait venir chez lui deux magistrats avec qui il rédigeait en termes juridiques son fameux projet de loi. Moi, mon travail d'analyse terminé, j'étais allé me promener au jardin des plantes. Je m'ennuyais. Le chef d'orchestre était parti la veille pour Vienne. Peut-être la dame de Leipzig était-elle à son hôtel. Je m'y rendis, en me répétant que c'était absurde, que j'allais encore me lancer dans une histoire stupide, que le meilleur qui pouvait m'arriver était qu'elle ne fût plus là. Elle n'était plus là, hélas, et je n'eus pas la force de m'en féliciter. Après une heure passée au jardin des plantes, je revins me promener dans la rue de la Paix, avec l'espoir secret de retrouver le capitaine de Link, le neveu du premier ministre, celui qui connaissait une nommée Irma. Mais le capitaine ne devait pas être revenu de permission. Il n'était pas à la terrasse de la grande taverne, ni au café Grinzel, où se réunissaient habituellement les officiers. Il y avait au palais une magnifique bibliothèque remplie de ces chefs-d'œuvre des temps passés que je connaissais si mal. Je m'étais dit bien des fois, si j'ai une journée de libre, je viendrai me plonger là-dedans. Je fis quelques pas timides vers le palais, puis je m'arrêtai. Non, ça ne vaut plus la peine, il est trop tard. Mon maître, le baron de Herner, était le véritable roi de Schönbourg, et je détenais en somme une partie de sa puissance, puisque je connaissais son secret. Et je me trouvais triste et sans ressources morales dans les rues de cette ville que je pouvais considérer comme m'appartenant un peu. C'est ce jour-là que je me blasais pour jamais sur les charmes du pouvoir. Je vis enfin qu'il était 6h30 et que je pouvais me rendre, en marchant doucement, chez Bertha, où l'on m'attendait vers 7h. Il fallait traverser la longue promenade publique où, trois fois par semaine, la musique de la garde venait jouer à 5h. La musique était partie, mais on n'avait pas encore retiré les chaises. Des enfants s'y étaient installés et imitaient les musiciens en jouant de la trompette dans leurs poings, pendant qu'un autre enfant, debout au milieu du cercle, battait la mesure avec un bâton de cerceau. Je les regardais un instant avec l'intérêt lassé que j'étais disposé à accorder ce jour-là à n'importe quel spectacle, quand je sentis qu'on me touchait le bras. Je vis alors une femme, aux traits fatigués, mais dont le regard profond m'impressionna. « C'est bien, monsieur Humbert, » me dit-elle. « Cet enfant que voici, le fils de la concierge du palais, vous a désigné à moi. Je vous cherche depuis 3 heures, et je désespérais de vous trouver. » Elle me fit signe de venir un peu à l'écart. « Excusez-moi d'arriver brusquement ainsi. Vous ne me connaissez pas, mais moi je sais qui vous êtes. Le roi m'a souvent parlé de vous. Je suis affolée depuis hier. J'attendais le roi hier à déjeuner, et il n'est pas venu. J'ai passé une journée abominable, sans personne à qui me confier. Ma jeune sœur, qui habite le château de Reining, est partie précisément en Angleterre avant-hier, avec le comte de Ehrenstein, le seul ami que j'ai en dehors du roi. Je leur ai envoyé une dépêche, mais je n'étais pas sûre de leur itinéraire, et je n'ai reçu aucune réponse. Ce matin, je n'ai plus pu y tenir. Je suis arrivée comme une folle au château royal. Le gardien m'a dit que le roi était parti pour 1 mois. 2 mois. Parti sans me prévenir. Je me suis permis de venir vous trouver. Pardonnez-moi. Je suis seule. Je me suis permis de venir vous demander si vous saviez quelque chose. Le roi vous aime beaucoup, monsieur. Peut-être vous a-t-il fait part de ses projets. Je répondis que je ne savais rien et que je croyais que le roi avait dû s'absenter pour une raison politique, une raison que connaissait sans doute le premier ministre. « Je n'ose pas aller lui parler, » dit cette pauvre femme avec angoisse. « Je ne pense pas qu'il puisse vous dire quoi que ce soit. C'est sûrement un motif grave qui a déterminé le roi à s'absenter si vite. « Et sans me prévenir ? Non, je ne puis concevoir qu'il ne m'ait pas prévenu. Peut-être a-t-il chargé le ministre de vous faire dire quelque chose. Et le ministre, qui, je le sais, a de gros soucis, a-t-il négligé de s'acquitter tout de suite de la commission ? Je disais ce que je pouvais pour la rassurer. Je lui conseillais d'aller même voir le ministre au palais le lendemain. D'ici là, je me proposais de prévenir le baron de Herner, qui saurait bien imaginer un faux message du roi pour la rassurer, et arrêter en même temps ses investigations. Car il semblait impossible à cette pauvre femme que le roi pût la quitter ainsi. Et la première idée qui lui était venue, en ne le voyant plus, fut qu'il avait été victime d'un accident. Il valait mieux que son esprit ne s'arrêtât pas plus longtemps à une telle hypothèse. « Je regrette vivement, lui dis-je, de ne pas pouvoir rester avec vous, mais je suis attendue. Est-ce que vous allez de ce côté ?» Elle me répondit qu'elle allait n'importe où, qu'elle passerait la nuit dans un hôtel quelconque et qu'elle attendrait fiévreusement le lendemain et l'heure d'aller voir le ministre. Je connaissais à peine cette femme, mais je la connaissais assez pour que l'idée qu'elle allait passer une nuit d'angoisse me fût insupportable. « Le roi a chargé le ministre de vous prévenir, lui dis-je. Je puis vous le dire tout de suite. Le ministre m'en avait parlé à moi, et c'est moi sans doute qu'il vous aurait envoyé. Je ne devrais pas vous dire cela, mais je vous vois si anxieuse que je crois pouvoir prendre sur moi de devancer l'ordre qu'on me donnera. » Elle me remercia et je sentis qu'elle était un peu soulagée. Mais quel soulagement passager! Et je me disais qu'avant 3 mois, celui qu'elle aimait mourrait pour elle et pour les autres. Comme elle était exténuée, je lui offris mon bras. Je la regardais à la dérobée. C'était presque une vieille femme. Son visage n'avait plus d'éclat, mais ses yeux étaient restés admirables. Il y avait dans l'expression de cette figure fine une telle douceur, une faiblesse si éternelle, que l'idée qu'elle pût souffrir vous était tout de suite intolérable. Elle me dit qu'elle connaissait quelques personnes à Schönbourg, mais qu'elle n'irait certainement pas les voir. Elle me parlait avec un parfait abandon, comme si nous nous étions toujours connus. Elle me dit encore qu'elle me reverrait le lendemain au palais et me fit promettre d'aller la voir chez elle, à son château de Creusac. J'étais arrivée devant chez Bertha, mais je fis encore quelques pas avec la maîtresse du roi pour la mettre sur le chemin du grand quai où il y avait des hôtels convenables. Chapitre 15. Quand j'arrivai chez Bertha, je la trouvai avec Tolberg et un monsieur, pesant, qui ressemblait beaucoup à certains gros vieillards que j'avais eus jadis comme professeur de mathématiques. Ce monsieur, qui marchait avec une certaine difficulté, était un colonel de chevaux légers, en garnison à Schönbourg. Je compris tout de suite qu'il faisait partie de la conspiration. Tolberg se hâta de me présenter comme un homme sûr. Il dit que j'étais secrétaire du premier ministre, mais que l'on pouvait se fier à moi. Très gêné, je crus nécessaire de faire une déclaration un peu émue, où je disais que mon ami Tolberg me connaissait assez pour savoir que je ne les trahirais point, mais qu'en aucun cas je ne pouvais les seconder. Ma qualité d'étranger, et je ne voulais pas non plus jouer un rôle de traître. Et puis, le premier ministre n'avait jamais eu à mon égard de mauvais procédés. Cette déclaration produisit un certain froid. Au bout d'un instant, Bertha dit « C'est très compréhensible ». Tolberg balbutia quelques mots dans le même sens. Quant au colonel, il finit aussi par approuver, après quelques instants, en donnant toutefois à mes paroles un sens un peu moins noble que celui que je désirais leur voir attribuer. Oui, c'est bien naturel. Un étranger n'a pas besoin de courir tous les risques qui nous menacent pour une affaire qui, naturellement, ne lui tient pas à cœur comme à nous. Tolberg m'en voulait de s'être lui-même un peu trop avancé en promettant à la conjuration mon concours. Seulement, il n'était pas homme à bouder. Il détestait être en froid avec ses amis. Et sa bonne humeur, un peu forcée, devint au bout d'un instant une cordialité véritable. Bertha, avec plus de grâce encore, s'ingénia à être aimable et y réussit si bien que, bientôt à nouveau conquis par elle, je m'efforçais de noircir dans mon esprit la figure de Herner, et je me demandais si vraiment il n'y aurait pas à le trahir une raison de justice. Mais je commençais à me connaître, et je savais bien que ces idées disparaîtraient aussitôt que je me retrouverais en présence du baron. Le colonel, qui n'était pas attaché à moi par les mêmes liens d'amitié, garda vis-à-vis de moi une grande réserve. Il ne fut pas question de la conspiration, et l'on s'abstint de prononcer le nom du premier ministre. Mais le colonel avait une passion, sa haine du ministre de la guerre. Il ne put s'empêcher de parler de M. de Fritz, et je vis clairement quel mobile l'avait poussé à se mettre du complot. Le général de Fritz était son camarade de promotion. Une âpre rivalité les avait enfiévrés pendant toute leur carrière. Un moment, le colonel avait dépassé son émule. Il avait été attaché à l'ambassade de France. Mais pendant le long séjour que le colonel avait fait à Paris, de Fritz avait intrigué. Il s'était fait désigner plusieurs fois pour suivre les manœuvres françaises. Tous deux avaient écrit des ouvrages de tactique qu'ils réfutaient mutuellement dans des revues avec tant de férocité qu'ils risquaient de se démolir l'un l'autre et de ruiner mutuellement leur autorité. Heureusement, ces articles n'étaient lus que par eux. J'écoutais avec tant de bonne volonté les diatribes du colonel et les histoires interminables destinées à illustrer l'incapacité du ministre de la guerre. Je prêtais une oreille si complaisante à d'oiseuses anecdotes qu'il avait rapportées de son séjour à Paris, que l'attitude du gros homme à mon égard changea beaucoup vers la fin du repas. D'autant que pour suivre un régime spécial, il buvait sans arrêt un thé très fort, additionné d'un rhum qui augmentait à vue d'œil son animation et son expansivité. Après le dîner, on passa dans un petit fumoir. Tolberg et le tacticien se mirent un peu à l'écart, et je pus causer avec Bertha, qui me parla de Herner. L'amour du premier ministre était surtout fait de dépit. Cet homme puissant s'était exaspéré parce qu'on lui résistait. C'était du moins l'impression qu'elle avait eue, et qui me semblait assez juste, étant donné le caractère du premier ministre, qui ne m'avait jamais paru troublé par le souvenir d'une femme. Bertha occupait à Schönbourg une sorte de pied-à-terre. Elle habitait d'ordinaire dans le château de son mari, et ses façons discrètes et familières avec Tolberg, l'espèce de tranquillité confiante qui les unissait, me faisait croire qu'il y avait entre eux une intimité complète. Nous autres Français, nous nous posons toujours ces questions avec nos habitudes de curiosité libertine. Mais il est rare que nous sachions à quoi nous en tenir, parce que nous n'examinons pas avec assez de désintéressement les sujets ainsi mis en observation. Exemple. Le désir de voir un mari trompé nous fait désirer que cela soit. Et nous souhaitons par contre que cela ne soit pas par la crainte jalouse de savoir un amant heureux. Moi, j'étais très content de penser que Bertha et Henri étaient bien ensemble, parce que je les aimais beaucoup tous les deux, et parce que je me disais qu'ils étaient heureux. Et en même temps, je regrettais moins de ne pas pouvoir leur venir en aide en avançant leur mariage. Je pensais en effet que, tout réduit qu'il était par cette contrainte où ils vivaient, leur bonheur n'en était pas moins considérable. Je trouvais le jeune homme bien imprudent d'engager sa vie dans une conspiration qui me paraissait pleine de périls. J'entendis bientôt que Bertha partageait mes angoisses et qu'elle s'était efforcée de le détourner de ce projet dangereux. Et pourtant, elle se désespérait de ne pas vivre constamment avec lui. « Vous ne m'avez jamais vue qu'en sa présence ? me dit-elle en souriant. Il faut me voir quand il n'est pas là. Ce n'est pas une vie. Tout m'affole, au point que, moi qui l'aime tant, qui sais ce qu'il vaut, qui connais sa loyauté d'homme et sa fidélité d'ami, je vais jusqu'à le soupçonner des trahisons les plus invraisemblables. Mais quand il n'est pas là, je n'ai pas mon bon sens. Je mène une vie absurde, une vie de cauchemar. Non, je ne peux plus vivre ainsi. Il m'a souvent proposé de nous en aller ensemble. Mais de quoi vivrions-nous? Il n'a de ressources que ce que lui donne sa famille. Des gens terribles, d'un rigorisme de vie indomptable, et qui ne lui enverraient plus rien s'il arrivait un scandale pareil. Et puis je me dis aussi qu'il ne peut pas sacrifier son avenir. Vous me répondrez qu'il risque autant en conspirant. Je le lui ai répété même fois. Mais il me dit alors que c'est un jeu où il peut gagner. En somme, quand il n'est pas là, je souffre tant d'être séparée de lui que je me sens prête à jouer le terrible jeu dont il parle. Mais quand je l'ai là, près de moi, continua Bertha, je tremble de peur à l'idée que je peux le perdre. La soirée tirait à sa fin. Le chef militaire de la conspiration n'aimait pas à se coucher tard. Au moment où il s'en allait, Bertha et Tolberg me dirent « Restez encore, vous n'êtes pas pressés. » Tolberg avait d'abord fait mine de s'en aller avec nous. Je me dis que ma présence lui fournissait peut-être, vis-à-vis du colonel, un bon prétexte pour rester encore. « Vous voyez, Henri, dit Bertha, votre ami Humbert est de mon avis. Il pense que c'est une folie de se lancer dans cette conspiration. »
« Mais non, dit Tolberg, ça ne sera pas si dangereux. Nous avons à peu près renoncé à l'idée d'un coup de force. Nous ne sommes pas assez sûrs des militaires. Nous nous exposerions à faire battre nos soldats les uns contre les autres. Une pareille révolution serait très impopulaire. Nous vivons dans un pays de commerçants tranquilles et d'industriels timorés. En admettant que nous triomphions, jamais ces gens-là ne seraient de bon soutien pour un gouvernement qui les aurait terrorisés. En somme, l'homme que nous visons, c'est le premier ministre seul. Celui-là, l'idée de le tuer ne nous effraie pas. Mais il nous semble inutile, pour l'atteindre et pour le jeter à bas du pouvoir, de sacrifier la vie d'un tas de braves gens qui n'en peuvent mais. On va tâcher de s'en débarrasser avec une simplicité tout orientale. J'ai l'air d'être un sauvage, parce que je parle de ces projets de mort avec une apparence de légèreté. Si j'en parle ainsi, c'est qu'en vérité, je ne peux pas croire à la réalisation de ces choses barbares et anormales. Dans les conseils que nous tenons, j'ai toujours, au moment où ces questions viennent sur le tapis, un petit air détaché, qui, à la longue, va me faire une réputation de férocité froide. « Un beau barbare !» dit Bertha, un terrible justicier. Non, je ne crois pas non plus que vous soyez fait pour conspirer. Vous avez trop de sagesse. J'ai ce que beaucoup d'autres conjurés n'ont pas, dit Tolberg. J'ai une conviction. Oui, je crois fermement que la réussite du complot vous rendra heureuse. Et voilà qui me fournit une bonne raison d'agir, la meilleure. Il s'approcha d'elle si tendrement que je m'avisai tout à coup qu'il était tard. Je m'apprêtais à prendre congé d'eux. « Attendez, je vais avec vous, » dit Tolberg avec un peu d'embarras. « Mais non, mon cher, nous n'allons pas du même côté. »« Ah, ce Humbert, » dit-il en riant, « qui ne veut pas être vu en compagnie d'un conspirateur. »« C'est vrai que ce n'est pas prudent, » dis-je en feignant d'adopter cette idée. « Si vous n'êtes pas trop fatiguée, chère Bertha, nous allons bavarder un peu. »« Un quart d'heure, » dit Bertha. « Pas plus, » dit Tolberg. Petite comédie charmante qui ne trompait personne. Mais nous restions ainsi des gens bien élevés et de bonne tenue. Chapitre 16. Le lendemain, de grand matin, j'attendais le ministre au palais et je le mettais au courant de mon entrevue avec la maîtresse du roi. « Vous la recevrez vous-même, » me dit-il, « et de ma part, officiellement, vous lui confirmerez ce que vous lui avez dit hier. Je préfère ne pas la voir. Elle m'interrogerait. Il lui faudrait des détails complémentaires. Avec moi, elle insisterait. Vous ne saurez, vous, que ce que je vous ai dit. Le roi est parti, et des raisons politiques très graves obligent le premier ministre à taire la raison de son absence. Ce n'est pas absolument vraisemblable, mais nous n'avons pas le choix. Et vous, au moins, vous n'avez pas d'explication à donner. Vous savez, ajouta Erner avec entrain, que mon projet de loi va très bien, qu'il est entièrement rédigé et qu'il sera soumis au Parlement d'ici quelques jours. La maîtresse du roi arriva quelques instants après. Elle fut très déçue de ne pas voir le premier ministre, de qui elle espérait évidemment recevoir des détails plus circonstanciés sur l'absence du roi. Elle dut se contenter de ce que je lui répétais. Je lui promis d'aller la voir le plus tôt que je pourrais, à Creusac, et de la mettre au courant de tout ce que j'aurais appris. « Peut-être vais-je trouver une lettre en rentrant, » me dit-elle. « C'est possible, mais n'ayez pas de déception si vous n'en avez pas, car j'ai bien l'impression que les intérêts auxquels le roi obéit sont supérieurs aux siens propres et à toute considération. » Il faut évidemment qu'il garde un silence absolu sur tout ce qui concerne ce voyage. Il ne veut pas qu'on sache où il se trouve, et même la poste n'est pas tout à fait sûre. Il est donc infiniment probable que toutes les nouvelles du roi vous arriveront par l'intermédiaire du premier ministre. Comme il ne m'a rien remis pour vous ce matin, il est à peu près certain qu'il n'est rien arrivé entre ses mains. Il faut donc encore prendre patience. Soyez certaine que s'il arrive quelque chose, je ne serai pas long à vous en avertir. » Elle partit sur ces mots. Quelques instants après, comme je rêvais, le front appuyé contre la vitre, je la regardais traverser la cour. Je me rendis compte, bien que je ne l'eusse pas connue avant, qu'elle avait vieilli considérablement depuis le départ du roi. Ce n'était pas seulement la souffrance. C'était qu'elle n'était plus soutenue, maintenant qu'il n'était plus là, par cette surveillance désespérée d'une femme qui ne veut pas changer. Lui partie, elle s'était affaissée tout à coup. Et, tout en noir au milieu de la cour, elle avait plutôt l'air de porter le deuil d'un fils que celui d'un amant. J'allais rendre compte au baron de tout ce qui s'était dit dans cette visite. Il m'écouta avec une espèce d'air méchant qu'il avait quelquefois et qui m'était odieux. C'est dans ces moments que je me disais « Je vais, sans me presser, prendre mes dispositions pour rentrer à Paris. Je ne veux plus lier parti avec cet homme-là. » Depuis la mort du roi, je n'étais pas retournée à la table de l'intendant. La vie du palais, une petite vie paisible et bien réglée, s'y poursuivait avec les mêmes rites. Ce jour-là, cependant, il y avait deux convives supplémentaires et deux convives de marque. C'étaient les deux élèves de Bolmoler, les deux neveux du roi, et je me pris à penser que l'aîné, âgé de 14 ans, était, sans qu'aucun de ces gens s'en doutât, le véritable roi du pays. Je n'avais jamais vu les deux jeunes princes, ni la fameuse princesse Elsa, qui habitait d'ailleurs en dehors de Schönbourg, à 2 lieues de la ville. Les deux enfants étaient pâles et blonds. Ils étaient habillés à la mode anglaise, avec de grands cols blancs, de courtes vestes noires et des pantalons gris. Je crus comprendre qu'on avait dû d'abord les servir à une table séparée, mais qu'ils avaient demandé à manger avec tout le monde, ce qui avait amené un bouleversement dans le placement des convives. Du coup, la femme du second gentilhomme de chambre, la fille de l'usinier, en était devenue muette. Le chevalier Fink déployait toutes ses grâces pour éblouir les petits garçons. Quant au vieil écuyer, dont les aïeux, depuis plusieurs siècles, avaient mis en selle tous les princes du sang, il était tout ragaillardi par la présence de ses altesses royales. Il était malheureusement le dernier de cette lignée de cavaliers, et il s'abstenait de parler d'un fils indigne établi pharmacien à Varsovie. Mais il recevait cependant par la poste des paquets mystérieux, et des poches profondes de sa culotte de peau de daim,
il tirait, pour en faire hommage aux chevaux du roi, d'inépuisables réserves de boules de gomme. Bolmolaire ne manquait pas, pour affirmer son autorité de précepteur, de dire à ses nobles élèves « Cet après-midi, il faut que nous fassions ceci, ou que nous allions là. » Mais les jeunes princes, complètement indifférents à ces paroles, semblaient ne pas se douter qu'il existât de par le monde un individu du nom de Bolmolaire. Les deux jeunes gens, après le déjeuner, s'approchèrent de moi et entamèrent une conversation. Ils parlaient le français difficilement, mais je connaissais assez leurs professeurs pour les excuser d'avance. Ils me posèrent des quantités de questions sur la tour Eiffel, sur la vitesse des automobiles, sur les différents uniformes de l'armée française. Le plus jeune, le prince Frédéric-Georges, me demanda si j'avais des timbres français de l'Empire. Il avait la même passion que mon valet de chambre. Puis le prince Frédéric, l'aîné, après s'être recueilli, comme pour un grand effort, me dit tout d'une traite cette longue phrase. « Vous nous ferez l'amitié de venir déjeuner au château. La princesse, notre mère, aura plaisir à faire votre connaissance. » Puis il s'arrêta, tout essoufflé. Je les remerciai et promis d'aller les voir. Ensuite, après avoir recueilli protocolairement les salutations des personnes qui se trouvaient là, ils sortirent et je les vis traverser la cour l'instant d'après, à grandes enjambées athlétiques, tandis que Bolmolaire, qui trottait derrière eux à petits pas, se donnait l'allure d'un homme pressé pour ne pas avoir l'air de leur courir après. Je pris l'habitude, tous ces jours-là, de revenir à la table de l'intendant, où je trouvais une bonne petite tranquillité de pension de famille. J'entendais parler ces gens sans trop les comprendre, c'était distrayant et ce n'était pas fatigant. Ma vie était confortable, je passais mes matinées dans un bureau clair qui donnait sur la cour et qui était attenant à une spacieuse bibliothèque, dont les grandes fenêtres ouvraient sur le magnifique parc du château. Si l'on m'avait décrit à Paris cette existence et ce décor, j'en aurais été enthousiasmée, et je n'eusse rien rêvé de plus tentant qu'une telle vie, au milieu de richesses intellectuelles admirables et d'une somptueuse verdure. Or, je m'ennuyais mortellement. Mes journées étaient interminables. J'avais cru, au moment de la mort du roi et du mensonge de Herner, que mon existence allait être bouleversée. Et maintenant, il me semblait que rien ne s'était passé, et je n'avais même plus l'impression que le roi était mort. La fiction créée par Herner avait pris pour moi tout l'aspect d'une réalité. Un matin, j'étais dans mon cabinet en train de parcourir les journaux de Paris, et je songeais, tout en lisant, que j'étais malheureux sans avoir en réalité de sérieuses raisons de l'être. Or, je l'avais déjà constaté, le sort n'aime pas que nous nous attristions pour des choses aussi imprécises. Il nous envoie dans ce cas un bon sujet d'alarme, bien positif et bien sérieux, pour que nous ne perdions pas notre temps à être ennuyés pour rien. »